Robert, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi,
d'accord.
Moi, c'est André de Mbujimayi, au Kasai Oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci une fois encore de votre fidélité à Radio Okapi. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. Il a été créé dans la composition de l'actuel gouvernement, un ministère de la formation professionnelle, métier et artisanat, avec comme mission définir, conduire et exécuter la politique générale du gouvernement dans les domaines de formation technique. Entre-temps, plusieurs analyses ont recensé le besoin en compétences professionnelles en RDC dans plusieurs entreprises. Alors, que faut-il faire pour améliorer l'impact de ces secteurs dans le développement de notre pays? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 09 97 06 89 69 ou bien au 09 97 06 63 30 pour votre intervention en direct. Nico Kalambay assure la réalisation de ce programme mis en onde par Dieudonné Nyangassa, une émission supervisée par Martin Sebujangwe et coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Luabung Anji. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous avons en ligne Adrien qui est à Kinshasa, Maître Gervais à Kalemi, et nous avons également beaucoup de messages postés sur notre page Facebook. Maître Gervais disait estime que cet enseignement a besoin d'une subvention régulière de la part du gouvernement pour son développement, mais aussi d'un meilleur équipement en termes de matériel. Dieudonné Kayembe pense qu'avant de parler de l'impact de l'enseignement technique et professionnel dans le développement de la RDC, il faut d'abord en amont parler de l'amélioration de cet enseignement. Les écoles organisant les filières techniques industrielles et professionnelles éprouvent beaucoup de difficultés dans leur fonctionnement par manque de matériel, d'ateliers et des laboratoires. Il est vraiment difficile de former un bon technicien à ce jour. Olivier Agbanda estime que dans l'état actuel des choses, l'enseignement technique devrait avoir son propre ministère, car associé à l'EPSP, l'enseignement technique ne tire pas profit du budget alloué à son fonctionnement. Ensuite, bien équiper les écoles techniques pour associer la théorie à la pratique. Toujours dans la même optique, l'État et les entreprises de la place doivent se mettre d'accord pour permettre aux élèves des écoles techniques d'effectuer des stages pendant et après le cursus scolaire. Adrien, vous êtes à Kinshasa, bonjour et bienvenue.
Bonjour JR, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Okapi, merci de m'avoir accordé la parole.
Alors, comme vous avez suivi, un internaute qui a écrit en disant que c'était quand même une opportunité, hein. C'est vraiment opportun d'avoir un nouveau ministère de la formation professionnelle, mais la problématique de l'acceptation des stages au niveau des entreprises doivent être aussi de manière aussi systématique.
Je vous remercie pour l'alignement de ce sujet qui est très important à l'heure où notre pays est en train de faire une réforme au niveau de l'enseignement technique, parce que nous ne cesserons de le dire, l'enseignement a été fait, c'est pour résoudre un problème purement social, et lorsque l'enseignement ne répond plus aux problèmes sociaux, alors l'enseignement perd déjà sa raison d'être. Nous allons nous rappeler, dans notre pays, ça fait plusieurs années depuis le départ de Colomb, et que notre enseignement est resté à un niveau très très bas, et nous avons déjà essayé de relever ceci dans le passé, que les cadres formés avant, c'est-à-dire il y avait des gens qui n'avaient pas vraiment de cursus académique conséquent, mais qui avaient des potentialités conséquentes. Mais aujourd'hui, si le gouvernement doit investir dans l'enseignement technique ainsi qu'artisanal, c'est une chose à louer, tout simplement parce que notre pays est reconnu comme potentiellement riche, mais malheureusement avec une population pauvre. Pourquoi ? Parce que la population manque l'intelligence pour transformer la potentialité en richesse. Alors, nous avons déjà essayé d'aborder encore ce thème dans l'un des sujets avant. La difficulté qui existe aujourd'hui, c'est comme l'a dit un des auditeurs, que les écoles techniques ne sont pas équipées. Or, je prends l'exemple d'une section de restauration. Lorsque vous créez une section de restauration à l'école, il faut munir l'école des instruments de restauration modernes et aussi permettre à ce que les élèves qui sont en pleine formation puissent mettre leurs connaissances théoriques en pratique avec des stages professionnels. Ça, c'est d'une part. De l'autre part, il faut garantir cet élève-là qui vient à peine de terminer qu'il y aura de l'emploi dans cette profession technique. Parce qu'aujourd'hui, si nous nous rendons compte que beaucoup d'élèves ne sont pas attirés dans l'enseignement technique, c'est parce qu'ils ne trouvent pas le meilleur. Alors, tenez, il y a de plus en plus des élèves dans des sections purement théoriques, purement littéraires, qu'à peine terminés, ils peuvent devenir des généralistes. C'est comme ça, aujourd'hui, on a un juriste, mais qui se retrouve en politique. On a des politiciens qui se retrouvent des gardiens, parce que les gens veulent des enseignements qui semblent être généralisés. Or, si nous investissons dans les enseignements techniques, par exemple la mécanique auto, la mécanique générale, l'artisanat, l'architecture, vous allez vous rendre compte que l'élève va rester vraiment technicien dans son domaine à telle enseigne qu'il aura des difficultés d'aller dans l'autre secteur.
Oui, alors nous vous gardons encore en ligne, Adrien. Il est temps peut-être d'écouter Maître Gervais qui nous disait tout à l'heure que cet enseignement a besoin d'une subvention régulière de l'État. Gervais, vous êtes à Calémie. Bonjour Gervais.
Bonjour Monsieur JR, bonjour à tous les millions d'auditeurs de Radio Capi.
Voilà, vous avez dit dans votre message que cet enseignement a besoin d'une subvention régulière.
Oui, évidemment. La subvention régulière, on l'a bien souligné par rapport aux différentes difficultés que connaissent un peu cet enseignement. Parce que vous pouvez vous imaginer dans une institution, parce que vous avez la chance de pouvoir enseigner dans une des écoles techniques des bois. Là, on trouvait qu'il y avait toujours des matériels pour les différentes pratiques. Vous savez, cet enseignement, comme l'idée vient de juste de Théo, moi j'aurais bien voulu qu'on passait qu'il y ait un ministère à part entière chargé de technique, donc ministère de l'enseignement technique et professionnel qui sera au moins chapeauté par un technicien en la matière à la tête.
Oui, Maître Gervais, mais aujourd'hui, c'est chose faite. Nous avons un ministère de la formation professionnelle, métier et artisanat. Il y a également un ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Mais l'inquiétude aujourd'hui, on a l'impression que les attributions, quelque part, c'est télescope, quoi.
Oui, c'est ça. Ce que je dis, il faut qu'il y ait un ministère vraiment à part entière. Pas que les différents ministères des différentes structures qui viennent de me dire là, ça ne se font pas sentir dans la pratique. Vous savez, c'est comme si même le ministre seulement de l'enseignement primaire et secondaire ne se penche pas davantage sur l'enseignement professionnel et technique sur toute l'étendue de la République. Vous savez, aujourd'hui, le Congo a besoin d'électriciens, a besoin d'ingénieurs, disons, dans l'ensemble. Parce que vous savez, aujourd'hui, même, il y a aussi la construction d'une maison, d'autres, nous faisons toujours appel aux étrangers, aux ingénieurs étrangers.
On a tous les soucis de pouvoir. Voilà, on a des petits soucis avec votre ligne, Maître Gervais. Oui, Maître Gervais, on a des petits soucis avec votre ligne. Je ne sais pas là où vous êtes. Est-ce que vous pouvez peut-être vous déplacer? On verra si ça va améliorer la qualité de cette communication. Comme ça, on pourrait continuer avec vous. Maître Gervais, vous êtes avec nous? Voilà, désolé, on ne sera pas continué avec vous. Respect des auditeurs qui nous suivent en ce moment. On prend plutôt Théo qui est à Kananga. Théo, bonjour.
Bonjour, Gilles.
Quelle est votre contribution? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'était quand même nécessaire d'avoir un autre ministère et qui devrait s'occuper essentiellement de la formation professionnelle, métier et artisanat, aux côtés, donc, bien entendu, du ministère de l'enseignement primaire et professionnel? Ou bien peut-être vous estimez que le problème est loin d'être cela?
Bien, merci bien, M. Gilles. En principe, je crois que ce que les amis ont dit, ils ont pratiquement raison. Aujourd'hui, nous devons avoir pratiquement des ministères séparés, vous savez, parce que quand on dit enseignement primaire, secondaire et professionnel, c'est vraiment un grand ministère, au point que un seul ministère ne peut pas contenir. Vous savez, même autrefois, je crois dans l'ancien gouvernement, on a essayé de séparer ça, où on a mis le ministère de l'enseignement technique et professionnel. Les choses pouvaient quand même aller pour que les deux ministères puissent travailler en collaboration. Mais au-delà de ça, vous savez, comme je l'ai posté là-bas, aujourd'hui, les problèmes se posent aussi sur les approches qu'on utilise. Vous savez, nous parlons de l'enseignement technique. Alors, vous savez, les anciens programmes, les programmes ont existé, on a révisé le programme, je crois, vers 2007. Alors, ces anciens programmes là-bas contenaient l'approche qu'on appelait pédagogie par objectif. Mmh. Alors, où on ne pouvait que donner les élèves des définitions, retenir des théories vides de sens. Mais aujourd'hui, nous devons aller au-delà de ça pour intégrer l'approche par compétence, qui place l'élève au centre de son éducation, en insistant plus sur les méthodes actives et participatives. Alors, vous voyez, à ce moment-là, il y a lieu de créer un type d'homme qu'on est en train de chercher dans l'enseignement technique. Parce que l'enseignement général, oui, on peut encore retenir des définitions ici. Mais ici, on n'a pas besoin de définitions, on n'a pas besoin de beaucoup de théories, mm-hmm. mais plutôt la pratique. Voyez-moi dans cet aspect là-bas qu'il faut considérer les choses.
Alors, est-ce que vous l'avez dit lorsque on a vu la composition du gouvernement passé, il y avait à son sein un ministre de l'enseignement professionnel et technique. Ce ministère qui est transformé aujourd'hui en ministère de formation professionnelle, métier et artisanat. Je crois en lisant les attributions de ces deux ministères, en tout cas, nous sommes, comme l'a dit Adrien, en phase de la réforme de l'enseignement technique, on se rend compte que finalement, il y a quand même des attributions qui se télescopent. Est-ce que vous avez la même impression?
Oui, je crois que le ministère est aussi important. Vous savez, les deux ministères, l'enseignement général, comme il y a un ministère qui s'occupe de ça, et aussi l'enseignement technique. Bon, bien qu'aujourd'hui, on a presque changé la dénomination, on ne parle pas de l'enseignement technique, tout ça. Mais ce qui est important, il faudrait que ces deux ministères, d'abord, travaillent en collaboration et chacun doit s'occuper pratiquement de son secteur pour que les choses puissent aller de l'avant. Vous voyez, même autrefois, à Kananga, ici, il y a eu, on a semblé diviser, en fait, il y a eu des subdivisions pratiquement de l'enseignement général, l'enseignement technique. Bien que les choses n'ont pas évolué pratiquement, on considère qu'il y a des petits problèmes jusqu'à ce niveau-là-bas. Mais c'est très important pour que cet enseignement ait son ministère propre pour s'occuper des questions spécifiques. Parce qu'il y a des questions spécifiques qui ne concernent pas l'enseignement général.
Mmh. Voilà, merci beaucoup Théo d'avoir contribué à cette émission, comme l'a fait également Adrien qui est avec nous. Amissi, vous êtes à Kindu, bonjour et bienvenue.
Bonjour monsieur le journaliste.
Et quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Et ma contribution est simple monsieur le journaliste. Voyez, mes amis ont évoqué le problème d'avoir un ministère propre, l'enseignement technique et professionnel. Les autres ont parlé des subsides. Ma contribution est celle-ci. À part ces deux points de vue de mes prédécesseurs, moi j'ajoute la promotion. Il fallait promouvoir ce secteur-là. Parce que moi je suis le fruit d'une école technique. J'ai connu beaucoup de problèmes. Vous allez voir, moi je fais la technique informatique. La technique informatique, vous apprenez l'informatique et l'ordinateur, mais vous êtes 50 avec deux ordinateurs. Comment vous allez dire que voilà, là on peut évoluer si on crée des écoles techniques? Alors, moi ce que je voulais, il faudrait voir au niveau du budget. Qu'est-ce qu'on donne de moyens à ces écoles-là? Parce que pour évoluer, pour que les enfants soient bien formés, il faudrait avoir des moyens conséquents pour une bonne formation des apprenants. Et ensuite, vous allez voir aussi le nombre d'écoles, de techniques. Par exemple, dans la ville de Kin, nous n'avons qu'une seule école. Alors, on ne donne pas l'importance à cette école-là. Et alors que, par exemple, aujourd'hui, ceux qui font technique auto, on utilise des vieux véhicules. Alors qu'il y a des véhicules électroniques, il y a des véhicules hydrauliques, alors on utilise des véhicules mécaniques. Il y a incompatibilité. Hein, on n'adapte pas la formation avec la technologie actuelle. Voilà, moi, j'ai un
souci. Oui, mais Amissi, lorsque nous lisons les attributions de ce nouveau ministère de la formation professionnelle, métier et artisanat, en son point 4, il est dit, pardon, en son point 3, il est dit que ce ministère a la charge de créer et de gérer des centres ou établissements publics et agréments des centres ou établissements privés des formations professionnelles. Également, gérer le réseau d'écoles de formation professionnelle et des centres spécialisés. Est-ce que vous pensez que ça sera possible si jamais ce ministère ne travaillait qu'avec les budgets, une part allouée qui est faible?
Non, c'est pratiquement impossible parce que ça demande beaucoup d'argent. Vous savez, la Chine et les autres pays se sont développés grâce à la technique. Comment on doit passer le Congo, on veut aller à la révolution de la modernité. Il faut donner des moyens, pas sur des théories, des moyens. Vous allez voir que le Congo va se développer. Le Congo ne va pas se développer avec des théories, avec des moyens qu'on doit allouer à ces départements, là.
Voilà, merci beaucoup Amissi. Alors on revient à vous Adrien, parce que vous avez suivi les autres auditeurs qui ont évoqué également des difficultés aujourd'hui pour que d'abord ils ont salué l'avènement d'ailleurs de ces ministères à part entière de la formation professionnelle, métier et artisanat, mais la difficulté maintenant, si quelque part il y a télescopage entre les attributions, ça ne pourrait pas faire avancer les choses. Est-ce qu'à votre niveau, vous sentez vraiment qu'il y a un besoin au niveau de la formation professionnelle, donc au niveau de l'économie de la RDC, dans les entreprises qui nous entourent?
Maître Gervais, Théo ainsi qu'Amissi, parce que le rapport a été vraiment significatif. Pour répondre à votre question, il faut qu'on se demande le rôle du cycle d'orientation. Parce que nous savons que l'enseignement primaire, secondaire, ça signifie qu'à un certain niveau, parce que le degré secondaire s'arrête en deuxième, au niveau du cycle d'orientation. Les cycles d'orientation permettent à l'enfant de pouvoir être affecté dans un domaine comparativement à son conscient intellectuel.
Oui, mais Adrien, je ne sais pas, sans vous couper, le cycle d'orientation, en tout cas si ma mémoire est très bonne, a été déjà supprimé, et actuellement même, au niveau même de l'enseignement, on parle de cycle complet depuis la première année secondaire jusqu'en sixième. L'enfant, dès qu'il entre en première, il peut déjà, disons, décider de l'option à prendre. Si c'est la scientifique, il commence déjà depuis la première année. Il y a certaines écoles qui ont déjà commencé. Je crois qu'il y a eu déjà les dernières instructions de la promo scolaire de l'année dernière. C'était pratiquement cette option qui a été levée.
Mais personnellement, je n'avais pas apprécié parce qu'il y a 2 ans, le ministère avait initier donc un projet d'examen général, examen d'État, je ne sais pas comment on avait nommé ça, mais au niveau de la deuxième secondaire, il fallait faire passer un test national aux enfants pour permettre de leur orienter par rapport à leurs aspirations en troisième, parce que nous savons que la section est optée en troisième. Et c'est au niveau de troisième que l'enfant doit avoir sa vision, doit avoir les aspirations par rapport à son avenir. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les enfants eux-mêmes qui commencent à choisir des sections et sans fondement. Il n'y a pas de base. Ils le font d'une manière subjective par influence des enfants et ça a des conséquences néfastes dans leur vie. Alors, je voudrais aussi jeter un coup d'œil au niveau, par exemple, de la Polytechnique à Lubumbashi. Si vous allez à Lubumbashi, la faculté de la Polytechnique avait des pépinières. Je prends ne plus qu'un pépinière. Tous ceux qui ont étudié à l'école à Lubumbashi, à la Polytechnique, vont se rendre compte que l'ITP, l'Institut Technique et Professionnel Louboui et Académie. C'était une des grandes ressources de la faculté de la Polytechnique à Lubumbashi. Mais depuis que la guerre est intervenue en 1997, allez-y aujourd'hui, je félicite déjà le gouvernement qui a eu la réfection des bâtiments, mais il n'y a plus de matériel. Mais lorsque vous allez là-bas, vous trouvez effectivement les enfants qui ont l'envie de devenir des ingénieurs à leur niveau, de devenir des gens qui peuvent créer, mais ils n'ont pas de matériel. Vous allez dans le laboratoire de bois, vous ne trouvez rien, même pas une même les scies, il n'y en a pas. Il n'y a rien du tout. Mais vous trouvez l'enfant lui-même qui se débrouille à la cité le jour de la pratique, il amène les scies, il cherche des barres de fer, et il vient et vous trouvez qu'il y a la conception. Mais vous vous rendez compte que si on essaie de l'encadrer, il pouvait donner un résultat. Je prends la dame qui a fait le robot intelligent. Quelle est la politique du gouvernement pour soutenir cette dame? On pouvait ouvrir une école, ne fût-ce qu'un centre de formation de fabrication des robots. Chez les Chinois, on devrait déjà avoir plusieurs robots au jour d'aujourd'hui. Mais je ne sais pas ce que fait le gouvernement avec cette intelligence-là. Et quelqu'un a parlé des manques de moyens. C'est vrai que le gouvernement est en difficulté, mais l'enseignement au Congo a des partenaires. Je prends l'exemple de l'UNESCO, l'UNICEF. Si le gouvernement fait une bonne politique, un bon projet, avec du sérieux, et il dispose ça au niveau de l'UNESCO, au niveau de l'UNICEF et les autres partenaires, moi je pense qu'on ne peut pas manquer, parce que l'UNICEF donne parfois des cahiers, des petits sacs gratuitement, mais si on investit dans l'enseignement technique, parce que l'enseignement technique, dans moins de 5 ans, vous allez avoir un résultat prompt, différemment des autres enseignements. Je félicite aussi, par exemple, l'INPP, ici à l'IMETE industriel. C'est bien quand même, c'est très bien fait, ça c'est une chose qui est faite. Si le gouvernement devrait construire l'INPP, ne fût-ce que dans chaque chef lié à la dimension ici de la direction générale, je crois qu'il n'y aurait pas assez de problèmes. Parce qu'on trouve, j'ai fait un tour la fois dernière, il y a eu beaucoup d'apprentis là, et c'était une bonne chose. Mais le problème, c'est qu'on a ces sujets, c'est quoi? Il n'y a pas de suivi. On forme les gens, certains réalisent le cycle, d'autres ne le réalisent pas, et après, on s'en fout, personne ne s'intéresse pas à eux. Regardez hier, quand vous allez dans des chantiers, que ce soit les chantiers des routes, vous trouvez les Chinois qui se trouvent partout, même en train de conduire les engins. Je me pose la question, est-ce qu'au Congo, il n'y a pas des chauffeurs qui peuvent conduire les engins et que l'ingénieur chinois reste ne fût-ce qu'au niveau, par exemple, de la supervision générale? Or, cet argent-là qu'on paye à ce Chinois-là qui est devenu chauffeur, on pouvait payer à ce Congo, à un Congolais. Et vous allez vous rendre compte que ce Chinois est très mieux payé qu'un superviseur congolais. Pourquoi? Parce que le Congo n'a pas encore admis cette politique de mettre en valeur ses propres produits. Voilà tout ce que j'avais à dire.
Oui, alors Adrien, j'aimerais bien que nous analysons aussi deux attributions de ce nouveau ministère de la formation professionnelle. Lorsqu'il est dit en son point C, parmi ses attributions, que ce ministère doit concevoir, élaborer et imprimer et diffuser des programmes de formation professionnelle pour les établissements en collaboration avec les ministères ayant l'enseignement primaire, secondaire et professionnel dans ses attributions. Et de l'autre côté, ce même ministère doit organiser des chambres nationales et provinciales de l'artisanat et des métiers. Voilà. Quelle est votre réaction?
En tout cas, ça c'est une très bonne chose. Excusez-moi que je puisse me rappeler d'un des ministres qui était venu avec le slogan « Consommons congolais ». J'avais beaucoup apprécié cela. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un prix autour des investisseurs. Pourquoi ne pas faire dans le cadre de la vulgarisation créer, par exemple, chaque année, un salon d'honneur pour les inventeurs. J'ai suivi sur les ondes de la radio Capi un jeune informaticien qui a créé une application avec les SMS. Mais ça, c'est une intelligence congolaise. Si le gouvernement capitalise cela et il appelle ces jeunes, c'est un jeune à lui-même, il a eu de cette intelligence et il le met en pratique. Mais si on lui facilite les choses, on lui donne les moyens, vous ne pensez pas que ces jeunes pouvaient fabriquer, créer encore d'autres logiciels plus importants que nous pouvons gérer à notre pays et vendre à l'extérieur? Donc voilà pourquoi dans le cadre de la vulgarisation, je peux proposer à ce ministère-là de l'enseignement technique de créer même des bourses d'études, parce qu'il y en a. Ça ne demande pas beaucoup d'argent. Il y a des privés qui ont de l'argent, il y a des ONG. Il suffit que le gouvernement prenne des choses en main. On crée, on met sur pied des bourses d'études pour les enfants qui peuvent se distinguer au niveau de l'école secondaire, et on les prend même en charge. Même 10 élèves par province, et que vous donnez à ces élèves-là l'obligation qu'à la fin de leurs études, ils doivent être capables dans leur domaine de nous fabriquer quelque chose, par exemple. Et ils étudient sous frais du gouvernement. Et par ailleurs, vulgariser aussi dans le salon d'honneur de remise de prix ceux qui créent, ceux qui inventent dans le domaine. Parce qu'en leur offrant le prix, ça leur permet aussi de redynamiser leur travail, de prendre beaucoup de courage, et que ceux qui dorment peuvent, en voyant la remise du prix, se réveiller aussi et se mettre au même diapason, voire faire plus.
Voilà, on vous garde encore en ligne, il est temps de prendre Van qui est à Kananga et Valérie à Kinshasa. Van, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
Voilà, vous avez la parole. Après avoir suivi les uns les autres, quelle est votre contribution?
Merci beaucoup Gilles de la parole que la radio Capi offre ces jours. J'ai suivi les interventions précédentes et la récente m'a beaucoup plus intéressé, et surtout à son début lorsque l'intervenant de tout à l'heure voulait toucher une dimension aussi essentielle quand il a fait allusion au cycle d'orientation, bien entendu, parce que moi je me dis que c'est à partir de là que l'orientation peut être trouvée. Aujourd'hui on se retrouve que plus de personnes préfèrent aller dans les filières, notamment l'université, apprendre le droit, apprendre la santé, apprendre, et on se rend compte qu'on a plus de médecins, on a plus de juristes et qui ne répondent finalement pas aux besoins de notre communauté. Dans ce que moi je me dis, c'est vrai, la bonne intention du gouvernement de créer un tel ministère, mais moi je me dis que il y a des contraintes pour que le ministère puisse bien fonctionner. C'est ça même la dimension nouvelle que moi je voudrais proposer.
Oui.
Parce que il faudrait regarder la difficulté que nous avons au sein de la communauté pour comprendre que l'enseignement technique vaut son pesant d'or dans un espace comme celui de la RDC. Ce qui veut dire qu'à ce ministère, il n'y a pas assez de chevauchement. Parce que je vous ai suivi dans votre intervention, lorsque vous analysez les attributions, vous sentez qu'il y a un chevauchement. Non, moi, je me dis que c'est question seulement qu'on mette du sérieux pour ce qui est du ministère de l'enseignement technique. Est-ce qu'on ne peut pas commencer, par exemple, avant de mettre en œuvre un ministère, on commence par des états généraux. On ressource des gens, on crée d'abord des divisions au niveau de la province pour éviter ce télescopage. Je donne un exemple ici à Kananga. Lorsqu'on a annoncé ce ministère-là exactement, un problème. Celui qui était nommé, qui devait vraiment représenter le ministère au niveau de la province, se voyait toujours obligé de dépendre du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Donc ce sont des problèmes qui arrivent parce que le gouvernement qui peut avoir une bonne intention, mais il le fait pour assouvir aux intérêts des politiciens. On a compris quand on a alourdi par exemple le nombre de ministères. On a compris qu'il fallait créer un tel ministère comme si on était en train de plaisanter, alors que c'est un ministère stratégique et intéressant. Moi, je pense qu'il fallait, à ce stade JR, organiser des états généraux, repenser les systèmes d'enseignement qui vont être dispensés dans ce genre de ministère. Ainsi, aujourd'hui, les privés qui ont, par exemple, la bonne volonté d'ouvrir des ateliers, il faut de plus obtenir des autorisations de ce ministère, parce qu'il y a des gens ici qui s'évertuent à créer des ateliers, mais on se pose la question. Quel type d'enseignement ils donnent là-bas? C'est ainsi que l'État doit prendre ses responsabilités à travers ses ministères. D'abord, organiser des états généraux, inviter les amis, les partenaires du ministère d'enseignement, qui sont les universitaires et l'enseignement professionnel, bien entendu, et se les mettre ensemble, ils discutent pour éviter tout ce qui peut ne pas choquer ou blesser les uns les autres. Donc, voilà. De cette façon-là, j'espère à mon sens qu'on évitera la RDC d'avoir plus de juristes aujourd'hui, par le fait qu'il manque au préfet, se retrouve dans l'état de tunnel motard. Il se retrouve en train de faire autre chose que ce qu'ils ont essentiellement appris sur le monde de l'école. Je pense que c'est une très bonne initiative, mais qu'il y a des préalables, tels que je venais de les évoquer tout à l'heure.
Voilà. Alors, parmi les préalables, vous avez parlé des états généraux interministériels. En fait, aussi longtemps que c'est une question transversale, il y a d'une part les ministères de l'EPSP, c'est comme ça qu'on l'appelle aujourd'hui. De l'autre côté, il y a le ministère de la formation professionnelle, métier et artisanat. Et au-delà de cela, il y a également les ministères de l'enseignement supérieur et universitaire. Les trois mis ensemble, je crois qu'on pourrait ressortir toute cette problématique au clair et aussi dégager des solutions, parce que il faudrait, comme l'a dit Adrien tout à l'heure, que les pays est potentiellement riche, il va falloir, en fait, la population et les pauvres, faute de des hommes capables de transformer ces richesses. Alors pour arriver à les transformer, il faut une formation professionnelle, que les gens soient directement lancés sur le monde d'emploi, comme c'est fait dans le passé, avec la formation chez les frères des écoles chrétiennes, les Salésiens, donc de Kitambo, qui avaient un grand atelier qui, chaque année, donnait au pays une main-d'œuvre importante au niveau de la profession. Donc je crois que si on tend vers cela, la solution pourrait être trouvée. Merci beaucoup. 09 97 06 49 69. ou encore le 09 97 06 63 30 pour votre intervention en direct.
Vous êtes une femme leader? Vous connaissez une femme leader?
Responsable politique au cadre de l'État, avocat, juge, journaliste, responsable dans la société civile, le monde académique, les entreprises publiques, les organisations internationales, les ONG, entrepreneurs ou encore leaders communautaires.
Connectons-nous. Faites-vous connaître pour intégrer le premier annuaire des femmes leaders en RDC, produit par ONU Femmes, l'Organisation des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.
Contactez-nous par téléphone au 082 62 91 154.
Ou alors par mail à femmeleaderrdc@gmail.com.
Parole aux auditeurs.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous accorde la parole et merci à vous tous qui avez accordé l'intérêt à ce sujet lorsqu'il a été posté depuis hier. Plus de 6500 personnes ont atteint ce sujet et quelques-uns parmi vous ont pu commenter ces débats. Quelques dizaines de milliers de Congolais sont âgés de 15 à 30 ans ou à 30 ou 40 ans, soit près de 40% de la population selon les statistiques officielles. La moitié, voire même plus d'entre eux n'ont pas de travail. Alors l'extrême jeunesse des populations congolaises rend encore plus criant le besoin d'une formation professionnelle adaptée aux emplois disponibles, alors que le manque de main-d'œuvre qualifiée freine la croissance des entreprises. Cette problématique relance donc les débats sur la formation professionnelle, métier et artisanat. Plusieurs analyses ont recensé le besoin en compétences des entreprises en RDC. Donc en matière de compétences, la RDC économique a donc d'immenses attentes. Alors un Kidam disait, si l'on veut changer le Congo, il faut passer par les hommes. Trop de Congolais sont peu ou mal formés ou sont en inadéquation avec les besoins des entreprises, explique-t-il. Et nous venons d'ailleurs de suivre Adrien tout à l'heure qui parlait d'un pays potentiellement riche. La population est pauvre, faute des hommes capables de transformer cette richesse. Est-ce que Valérie, qui est à Kinshasa, partage cet avis? Valérie, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour GR et bonjour à toute l'équipe des auditeurs.
Quel est votre avis?
Merci bien. Et permettez que je commence par vous poser une question afin de bien situer mes idées. Est-ce que les écoles techniques cycles longs, d'après le programme du gouvernement, relèvent de l'enseignement primaire et secondaire ou bien de l'enseignement professionnel?
Voilà, je crois qu'il y a... Si nous avons soumis cette question au débat pour que nous arrivions un peu à réfléchir par rapport aux attributions des uns et des autres, mais on sait tout de même que dans la dénomination et aussi dans la mission qui est assignée à la formation professionnelle, c'est juste définir, conduire et exécuter la politique générale du gouvernement dans les domaines de la formation professionnelle, des métiers et de l'artisanat, et concevoir, élaborer, imprimer et diffuser des programmes de formation professionnelle. Mais de l'autre côté, l'enseignement primaire, secondaire et professionnel garde aussi sa mission traditionnelle de pouvoir concevoir, émettre et diffuser notamment des programmes des cycles longs. Donc, comme pour dire, les enseignements techniques cycles longs, c'est le domaine de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel.
Ok, merci beaucoup. Là, je suis bien orienté pour éviter autre chose que je voulais ajouter concernant le cycle long. Bien, alors, si je comprends bien, l'esprit dans lequel on a créé, c'est un bon esprit qu'il faut encourager. C'est-à-dire, c'est l'esprit de répandre un peu les formations professionnelles un peu partout, afin d'adapter les gens au métier. Parce que même quand vous voyagez à l'étranger, vous remarquerez que même pour préparer du pain dans une boulangerie, il faut avoir subi une formation pour ça. Même pour faire l'agriculture, là ce n'est pas mal. Mais pour réussir, il faudrait que l'État mette de la main dans la pâte. Pourquoi? Parce que au départ, nous n'avons pas beaucoup d'écoles de ce genre. Nous n'avons que l'INPP, peut-être que c'est maintenant qu'on commence à l'ériger un peu par province, mais ça ne suffit pas toujours. Et l'INPP a aussi une certaine limite. L'INPP n'a pas toutes les options. Mais il faudrait qu'on aille dans chaque domaine. Parce que on ne doit pas travailler au hasard. On doit travailler dans les normes. Le monde est déjà évolué. Il y a des standards internationaux. C'est à travers ces standards que nous devons évoluer. Mais seulement, il faudrait aussi se poser des questions. Est-ce qu'en amont, on a obtenu les professeurs pour tous ces métiers? ça aussi c'est un problème. Le programme, le ministre depuis qu'il a eu ce travail-là, est-ce qu'il est ouvert à tout chercheur, à tout homme de science, ou bien il se renferme seulement avec les 7 ou 8 conseillers? Là aussi je crois que c'est un problème. Alors moi je vais donner ma contribution. Je voudrais que, comme la presse est là, si vous pouvez me mettre en contact avec et le ministre de l'EPSP et le ministre de l'enseignement professionnel, afin que je puisse apporter ma contribution. Pourquoi? Parce que je suis d'abord de cette formation. Je fais la section scientifique, après je suis allé faire la technique. Je connais la différence, même au niveau des ingénieurs, entre un ingénieur qui est passé par la section scientifique et technique. Je sais comment, qu'est-ce qu'il faut reprocher à chacun des programmes. Mais si j'entre seulement en contact avec ces programmes, je saurai ce qu'il faut faire. Mais je me dis, il faudrait qu'on puisse créer, comme l'a dit l'un des prédécesseurs, d'abord je remercie tous les prédécesseurs qui sont bien intervenus, comme l'a dit l'un d'entre eux, qu'il faudrait des états généraux. Mais moi je voudrais qu'à ces états généraux, qu'on puisse associer aussi tous ceux qui sont passés par cette expérience et qui sont déterminés à apporter quelque chose. Moi personnellement, je me porte garant. Je dis l'idée est bonne, mais depuis que l'idée est là, je n'ai jamais appris qu'il y a un fonds prévu dans le budget, soit de telle ou telle année. Dans
oui, mais Valérie, il y a, oui, Valérie, il y a un auditeur qui, au fait, s'inquiète un tout petit peu en disant, est-ce que ce n'est pas un ministère circonstanciel créé par rapport aux besoins après discussion au centre interdiocésain où il fallait prendre en compte tout ce qui était de l'opposition, il fallait normalement créer des ministères. Est-ce une structure qui va durer dans disons va rester sur une durée pour permettre et commencer à réfléchir, mais en lisant les attributions, lorsqu'on on se rend compte que il a été attribué à ces ministères d'organiser des chambres nationales et provinciales de l'artisanat et des métiers, donc c'est un ministère pérenne.
Non, pas nécessairement ça. Si les politiques l'ont fait dans cette optique, c'est toujours possible parce que les politiques ont beaucoup d'idées derrière la tête. Mais s'ils l'ont fait, nous les tenons au mot ils ont déjà créé. Puis nous devons maintenant récupérer la situation. Vous savez, JR, quand vous allez à l'étranger, ce n'est pas n'importe qui fait n'importe quoi. Tout cela, c'est quoi? C'est dans un bon esprit, comme je l'ai dit. Dans quel sens? Tout le monde n'est pas obligé d'aller à l'université. C'est pourquoi même ceux qui n'ont pas fait des bagages cherchent à aller toujours à l'université. Finalement, ça ne marche pas. Mais dans des pays, tous ces Congolais qui voyagent à l'étranger, vous pensez qu'ils font quoi? Qu'ils aient été licenciés ou bien qu'ils marquent territoire au Congo. Mais ils vont entrer dans les écoles de métiers. Je vous dis que même pour abattre un animal à l'abattoir, on forme les gens. Puisqu'il y a des normes, un animal ne doit pas pleurer avant de mourir, sinon ça détériore même la chair. Je donne des exemples, il y en a beaucoup, mais je ne voudrais pas aller au-delà.
Merci
vous
beaucoup.
Avez déjà été dans des pays émergents, dans des pays développés. Je crois que vous comprenez ce dont je parle.
Merci beaucoup.
Donc, c'est tout à fait normal. On doit encourager et l'État doit engager un budget parce qu'il ne peut pas créer pour ne pas donner le budget. Il faut qu'il y ait des budgets pour ça et il faut que les ministres associent tous les chercheurs, tous ceux qui ont un peu d'expérience afin d'évoluer. Je vous ai dit, j'aimerais qu'avec votre concours, vous puissiez nous en parler au ministre de l'EPSP et de la formation, parce que moi-même, je n'aime pas voir les politiques, j'ai mes raisons.
Mais merci beaucoup.
Voilà.
Merci beaucoup Valérie d'avoir appelé. Et Kili Koumbi, vous êtes à Kindu, bonjour.
Bonjour, monsieur JR, et bonjour aux multiples auditeurs de la Radio Okapi.
Quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Voilà, merci encore pour la parole. La question du jour, je crois que c'est celle de savoir que faire pour améliorer l'impact de l'enseignement technique et professionnel dans le développement du pays. Et d'entrée de jeu, essayer de signaler que d'aucuns ignorent que le développement est un processus. Et en tant que tel, il importe de noter qu'il y a des étapes à atteindre et qui constituent des passages obligés avant d'arriver au développement proprement dit. Et pour les cas d'espèce, j'estime que de prime abord, nous devons nous demander si l'enseignement technique est officiellement reconnu en République démocratique du Congo. Pourquoi je dis cela? Parce que nous sommes en train de constater sur terrain ici que c'était d'une importance capitale dans la marche du pays vers le développement, mais que quelque chose de clandestine, et c'est nonobstant l'existence d'un ministère de l'enseignement technique et professionnel sous Matata et aujourd'hui formation professionnelle, métier et artisanat. Tenez par exemple qu'au Maniema, aujourd'hui, nous avons deux provèdes, dont l'un s'occupe de l'enseignement général et l'autre de l'enseignement technique et professionnel, mais ce dernier est inopérationnel parce qu'il n'a presque aucune structure à la base. Là, j'ai pas des écoles. Outre ça, mais JR, il y a aussi le fait que le gouvernement a aussi contribué à cette confusion en autorisant dans un premier temps l'effondrement de ce secteur avant de les suspendre quelques temps après. Mm-hmm. C'est ainsi que on a constaté les écoles qui organisent l'assemblée générale et technique à la fois ont à un certain moment connu des scissions pour être réunifiées encore. Ainsi, Monsieur JR, il est aujourd'hui difficile de bien identifier les sections de l'enseignement général et celles de l'enseignement technique. Alors, pour ceci, apporte des limbes griots dans ces secteurs, avec l'enseigne que les différents intervenants ne savent à un moment à qui ça s'est voué. Donc, on a parlé aussi des cycles de, j'ai entendu l'invité parler aussi du cycle d'orientation. Oui. Là aussi, c'est important parce que, bien sûr, aujourd'hui, on parle de l'enseignement technique et professionnel, mais il se serve qu'on a des enfants qui font certaines filières, soit parce qu'ils suivent leurs collègues. Pour les cas, par exemple, de la section technique, commerciale et informatique, vous trouverez qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont là parce qu'on parle d'informatique, on va manier l'ordinateur, alors qu'il y a aussi là des branches plus compliquées que même dans l'enseignement général, et vous trouvez que les choses sont compliquées. Et aussi, toujours dans le cadre de ces deux ministères, l'enseignement, les TST et la formation professionnelle, ça traite en confusion parce que vous trouvez d'une part, il y a enseignement primaire, secondaire et professionnel, d'autre part, enseignement professionnel, donc partout professionnel. C'est-à-dire que les gens se demandent aujourd'hui si c'est quelque chose qui est reconnu, c'est ou comment.
Oui, mais alors qu'il est combi.
C'est à mon avis difficile de songer à l'amélioration de son impact dans le développement du pays, car c'est encore de la confusion et il serait alors mieux de commencer par faire sortir ces secteurs de la clandestinité, comme c'est le cas aujourd'hui. Voilà.
Merci beaucoup, Kilikoumbi. Je crois que c'est cette confusion depuis le début de cette émission. Il y a beaucoup de gens qui l'ont relevé. Mais laissez-nous le temps quand même de vous dire que dans les attributions du ministère de la formation professionnelle, métier et artisanat, il est noté que ce ministère a dans ses attributions la gestion du réseau d'écoles de formation professionnelle et des centres spécialisés. Contrairement au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, qui a aussi dans ses attributions la gestion, l'organisation de l'enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel. Simon Tilolou, vous êtes à Matadi, bonjour et bienvenue. Simon Tilolou, vous êtes avec nous?
Oui, je suis là. Merci beaucoup, JR, pour surtout d'abord l'éclaircissement récent que vous venez de faire. Parce qu'il y a une petite confusion que les gens pensaient que les enseignements techniques et cycles longs étaient concernés par les ministères actuellement créés. Il n'en est pas question parce que au niveau de l'enseignement secondaire.
Oui, Simon Tiloulou, oui. Là, je crois que cette confusion, oui. À l'arrivée, quand le gouvernement Matata 2, lorsqu'on avait créé un ministère de l'enseignement technique, il y a eu cette confusion parce que le ministre honoraire de ce ministère pensait avoir la gestion même du réseau, même des cycles longs du professionnel. Et c'est ce qui avait créé un peu de confusion avec le ministre honoraire aussi de l'enseignement primaire et secondaire.
Absolument,
et c'est la confusion qui a régné même au niveau des divisions en province. Oui.
Vous le développez.
Oui.
Nous pensons que tel que le ministère est créé récemment, je crois que le problème se poserait d'abord sur le plan structurel. Parce que tel que le ministère a été créé pour ces gouvernements ici, on vise souvent l'enseignement artisanal, l'enseignement professionnel, ainsi de suite. Donc les centres de promotion professionnelle, les CNPP et les écoles normales qui avaient pour mission de former artisanalement les jeunes gens qui peut-être quittaient l'école pour les initier au métier. Mais aujourd'hui, quand vous voyez ça, c'est un ministre qui n'a pas un contenu sur le plan structurel. Parce que le centre de promotion professionnelle tel que voulu, il n'y a plus rien. Et d'ailleurs, ces écoles commencent à se transformer à l'enseignement normal. Et quand vous voyez, c'est presque vraiment l'enseignement normal. Vous voyez quelqu'un quitter l'enseignement normal, aller au centre de promotion professionnelle et faire le contraire. Donc, il fallait d'abord commencer par équiper, restructurer ces centres, les écoles normales qu'on appelait autrefois, où on initiait les jeunes à la menuiserie, à la mécanique, et ainsi de suite. Ce n'était pas les enseignements de format classique tels qu'on les fait à l'EPSP. Et les centres de promotion professionnelle, aujourd'hui presque ce sont des coquilles vides, il n'y a plus rien. Alors les ministères mettre directement un ministre ou nommer un ministre sans contenu, moi je crois que c'est une dépense de plus.
Il aurait oui, mais Simon, quand vous dites que c'est sans contenu, mais moi j'ai avec moi la loi, en fait l'ordonnance du 10 juillet fixant les attributions des ministères et la 34e ou à la 54e page où on a indiqué les attributions du ministère de la formation professionnelle, métier et artisanat.
Ça, ce sont les écrits.
Oui.
Mais je parle sur le plan structurel. Mm-hmm. Les structures qui devraient constituer la force du ministère, c'est-à-dire les attributions qu'on lui a données, il devrait les appliquer dans des structures bien orientées, bien organisées. Mais les centres de promotion professionnelle qui consistaient à récupérer les gens qui ont peut-être séché avec l'école pour les initier à un métier quelconque, mécanique, électricité. Ce sont des centres vides, il n'y a rien, il n'y a pas de véhicules, il n'y a pas des ateliers, il n'y a pas tout ça qu'on sort. Quand vous allez les écoles normales, qui initiait les jeunes directement à la formation pratique de la menuiserie et consorts. On en a pris presque. Alors, vous voyez, c'est là où je parle, pas par rapport aux objectifs écrits. Mmh. Les objectifs peuvent être là, mais il faut les exercer par rapport aux structures mises en place. Aujourd'hui, on n'en a pas.
Voilà, merci beaucoup Simon d'avoir appelé de Matadi. Pour vous, en tout cas, il faut un contenu clair pour aider ces ministères à pouvoir réellement résoudre ces problèmes. Comme nous l'avons dit, pays potentiellement riche, la population est pauvre, faute des hommes capables de transformer cette richesse qui passe automatiquement, notamment par la formation professionnelle. Alain, vous êtes à Kananga, bonjour et bienvenue.
Bonjour à tous les auditeurs de la... C'est Marco Balin à Kananga. J'ai le document de l'Union africaine de la seconde décennie de l'éducation pour l'Afrique du juin 2006. Comment est-ce qu'on définit un enseignement technique et professionnel? Selon la définition de l'UNESCO et du Bureau international du travail, on définit l'enseignement technique et professionnel comme étant un processus d'enseignement qui implique, en plus de l'enseignement général, l'étude des technologies, des sciences connexes et l'acquisition des compétences pratiques. On doit connaître que d'abord, le premier objectif d'un enseignement technique est de former des jeunes et des adultes au monde du travail avec la révolution de la technologie et les innovations dans les domaines de la science ainsi que la technologie. La chose est vraiment très simple et pour que l'enseignement technique et professionnel ait vraiment un impact positif en République démocratique du Congo. En plus de cela, on doit connaître que l'enseignement technique doit être plus pratique que théorique, car plus les apprenants affrontent la théorie à la pratique, plus ils deviennent plus performants et utiles dans les développements. En plus de cela, l'enseignement technique doit être aussi adapté à l'évolution de la technologie pour permettre aux apprenants d'avoir les sens de créativité et d'ouverture du monde. Mmh. Parce que vous ne pourriez pas parler d'enseignement technique tant que vous ne faites pas beaucoup d'efforts pour adapter cet enseignement à l'évolution de la technologie. Pour terminer, hier, l'enseignement technique devrait avoir son propre ministère, car associer l'enseignement technique à l'EPSP, l'enseignement technique ne devrait pas tirer profit du budget alloué à son fonctionnement. Un autre point important et très très morbolant qu'on doit connaître, que l'État congolais ainsi que les entreprises de la place doivent se mettre d'accord pour permettre aux élèves des écoles techniques d'effectuer des stages pendant et après leur cursus scolaire. Parce qu'on peut être là à l'école, on apprend des théories, c'est bien. Mais la pratique devient aussi vraiment difficile parce que vraiment nos écoles ne sont pas bien équipées en matériel. Mais si souvent l'État doit un peu signer, doit être d'accord avec les entreprises de place pour que non, pendant l'enseignement, pendant les cursus et même à la fin, que les élèves aient un peu le temps d'effectuer les stages, je pense que ça sera un point important pour cet enseignement.
Merci beaucoup Alain d'avoir appelé des Kananga. Docteur Michael, vous êtes à Lubumbashi, bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour, JR, merci beaucoup. Bonjour à l'auditeur, bonjour à Radio Capi.
Quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Oui, JR, ma contribution d'abord par rapport au ministère de la formation professionnelle technique des arts. Je commence par poser une question, JR. Est-ce qu'on a élargi les champs aussi à l'ESU et recherche?
Bon, la recherche, c'est également un autre ministère. Bon, c'est pas les débats à 10 jours. Nous restons dans les ministères de la formation professionnelle, les métiers. Comme nous l'avons dit, le pays est riche, mais le besoin les besoins en compétences des entreprises en RDC, c'est fait tellement sentir, il est énorme. Raison pour laquelle nous avons relancé ces débats sur la formation professionnelle, métiers et artisanat, qui devait être au fait les centres pour pépinière pour fournir aux entreprises la main d'œuvre importante. Ben alors aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais nous avons le gouvernement a créé un ministère à part entière, un ministère qui va s'occuper de la formation professionnelle. Est-ce que vous trouvez que c'est nécessaire, c'est opportun?
Ok, JR, vraiment, c'est très appréciable pour que ce ministère existe parce qu'il va beaucoup importer au sein de la jeunesse ou bien de l'élite congolaise. Mais le problème, moi qui vous parle, je suis médecin JR. Il y a beaucoup de difficultés notoires dans les chefs des médecins congolais parce que aujourd'hui je vous parle la pratique de la formation professionnelle importe aussi pour les jeunes médecins parce que aujourd'hui à l'heure d'aujourd'hui il y a le problème de la télémédecine et beaucoup de pratiques médicales qui sont automatisées alors que notre pays devrait vraiment nous approvisionner et voire même nous former une école comme l'ENA. Par exemple, si le gouvernement congolais nous formait, nous amènerait une école qu'on peut appeler École nationale des pratiques médicales pour nous former en 2 à 6 mois, 12 mois, on parvient aussi capable à pouvoir quand même être en mesure de pratiquer certaines pratiques médicales comme ça se fait dans les pays étrangers. Parce que quand vous y rendez même, vous avez des difficultés à vous adapter facilement à l'étranger par rapport à certaines pratiques médicales hier.
Est-ce qu'au niveau de l'école de santé, cette préoccupation ne trouve pas sa réponse?
Au niveau de l'école de santé, oui, mais le problème c'est que nous sommes beaucoup plus techniciens que praticiens. C'est ça le grand problème. Si on commence à nous initier par des nouvelles techniques, technologies en médecine, je pense que nous n'aurons pas beaucoup de problèmes.
On aura fait l'œuvre utile. Merci beaucoup. Nous allons prendre Adrien, qui avec lui, on va terminer cette émission. Adrien, je crois qu'en conclusion, on peut dire quand même que si jamais un regard soutenu à l'endroit de ces secteurs, ça pourrait être porteur pour nos entreprises qui aura résolu le problème de besoin de compétences professionnelles.
En tout cas, l'idée est très bonne, comme l'avait dit ingénieur Valérie. Je félicite aussi Van, que ce soit Kumbi, Simon, Dematadi, Alain, ainsi que Dr. Michael. Tous, en tout cas, ont été impeccables dans leur intervention. Il faut capitaliser cela. Moi, je pense que la volonté y est. Alors, quelqu'un avait relevé la question de l'interpénétration. Je ne crois pas, il n'existe pas de ministère totalement autonome. Tous les ministères sont interdépendants d'une manière ou d'une autre. Alors, ce qui est important, c'est de savoir les attributions, comme M. Simon Dematadi l'avait dit. Le contenu existe, d'ailleurs, vous lui avez répondu. Mais la difficulté, c'est quoi? C'est s'approprier. Les ministres ne jouent pas à l'excellence. Parce que vous allez trouver que ce ministère, avec l'ordonnance qui est très éloquente, mais vous allez vous rendre compte qu'à la fin de son mandat, on va changer notre ministre sans évaluer même ce qu'il aurait fait. Alors, la question qui s'était posée entre la confusion entre le ministère de l'enseignement primaire et secondaire professionnel ainsi que ce ministère, pour l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, c'est un ministère qui évolue dans le cursus scolaire normal. Mais pour le métier, c'est extrascolaire, ce sont des centres de formation. J'appuie le docteur Michael, ce n'est pas seulement dans le secteur de l'enseignement. Je l'ai dit même une fois au niveau de la magistrature. On nomme les magistrats tout licencié, toute personne qui sort de l'université qui a son diplôme de licence. Non, en principe, on devrait créer une école supérieure de la magistrature. Vous avez votre licence en droit, vous avez opté pour la magistrature, vous allez dans une école de formation de la magistrature, comme on fait avec l'ENA, l'ENS et les autres écoles. Comme ça, à la fin, vous êtes formé pour sur la pratique de la magistrature, la déontologie et le reste. Vous sortez, vous êtes magistrat nommé, vous savez ce que vous faites. il existe aussi des slogans. On dit qu'au Congo, il y a trop de diplômés, il n'y a pas de travail. Moi, je dis qu'il y a trop de diplômés, mais peu de diplômés. Parce qu'on a beaucoup de gens qui sont détenteurs de diplômes, mais le...
Qui n'est qu'une présomption de connaissances. Merci. Voilà, merci beaucoup, Adrien, d'avoir accepté de passer ce temps avec nous. Nous rappelons que vous êtes juriste et nous l'avons pris comme expert en cette matière sur la question, parce que vous faites des recherches, vous menez des recherches sur cette question de l'enseignement technique et professionnel, son impact sur le développement. Nous n'allons pas nous quitter sans pour autant dire merci à toute l'équipe qui a concouru à la réalisation de cette émission. Dieudonné Nyangassa était à la mise en onde, Nico Kalambay à la réalisation, Martin Sebujangui à la supervision de ce programme coordonné et présenté par J.R. Lungembo, Luabung Anji. À très bientôt pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.